journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
L'actualité ce matin, c'est ce terrible incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez. Deux morts dans les décombres d'une maison, 1200 pompiers sur le terrain. Nous irons au centre de commandement des pompiers au Luc dans un instant. Dans le reste de l'actualité, Laurence.
Les vaccins ARN messagers pourront-ils aider à lutter contre le sida? Le laboratoire Moderna démarre aujourd'hui le premier essai clinique sur des humains. Les premiers réfugiés afghans sont arrivés hier soir à Roissy-Charles-de-Gaulle, des hommes et des femmes qui vont démarrer leur procédure de demandeur d'asile. Et puis la rentrée littéraire avec ce matin un premier roman très remarqué, Grande Couronne de Salomé Killer.
La rentrée littéraire aussi à 7h45, une plume poignard, une écriture puissante, toujours digne. Sort Chalandon, son père du mauvais côté pendant la guerre et en parallèle le procès Klaus Barbie, enfant de salaud, publié chez Grasset. Sort Chalandon dans trois quarts d'heure au micro Inter. Et puis à 8h20 dans le grand entretien, Martine Aubry, la maire de Lille, ouvre grand ses portes aux Afghans. Elle nous dira comment et pourquoi. Et puis Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Avec lui, état des lieux de la politique d'asile en France et en Europe. On attend vos appels, chers auditeurs. 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Un incendie pas comme les autres dans le massif des Morts dans le Var. Devenu incontrôlable, on l'appelle un méga-feu. Il a déjà ravagé 5000 hectares et de par son intensité et sa vitesse de propagation, on peut le comparer aux incendies de Californie ou de Sibérie. Autrement dit, un véritable désastre que seules les pluies pourront aider à maîtriser. Le bilan humain s'est alourdi hier avec la découverte de deux corps dans une maison calcinée près de Grimaud. David Ossiou de France Bleu Provence.
Originaire du département de l'Essonne, Virginie était venue passer ses vacances dans ce gîte à 10 km de la plage de Grimaud, dans une zone difficile d'accès. « Adieu, petite sœur », écrit sur Facebook le frère de la jeune cuisinière, pour qui un avis de recherche avait été lancé dès mardi matin par ses proches. Des amis qui disent avoir pu joindre la jeune femme jusqu'à minuit lundi soir. Dans son dernier appel, elle expliquait que la maison était entourée par les flammes. L'analyse des prélèvements effectués sur les corps permettra maintenant une identification précise. Elle pourra confirmer aussi que l'autre dépouille est bien celle du propriétaire des lieux, un homme de 57 ans.
David Ossiou de France Bleu Provence. Bonjour Nina Valette. Vous êtes au Luc, au centre de commandement des pompiers. Comment s'est passée la nuit, Nina?
Alors cette nuit a été calme, plus calme, c'est vrai. Le vent présent depuis 2-3 jours s'est fait plus discret, de quoi faciliter finalement le travail des pompiers. En revanche, il faut rester vigilant, nous a confié ce matin le commandant des opérations de secours, parce que le feu n'est pas encore fixé et qu'il est susceptible de pouvoir évoluer à tout moment, notamment entre la garde Freinet et Vidauban. Pour le moment, 7100 hectares sont officiellement partis en fumée. Et pour éviter de faire augmenter la surface, un hélicoptère bombardier d'eau est déjà parti sur le terrain. Deux Canadair suivront à 8h, le tout accompagné de 1200 sapeurs-pompiers, un chiffre qui pourrait baisser à 1000 si la situation reste stable. Notez que depuis le début de la semaine, 12 soldats du feu ont été légèrement blessés dans cet incendie.
Merci Nina Valette, en direct du Luc. Vous étiez avec Hélène Langlois pour les moyens techniques.
Sur le front du Covid, le pont aérien se poursuit entre la métropole et les Antilles.
Pont aérien pour soulager les hôpitaux antillais saturés par les cas de coronavirus. De nouveaux renforts, 120 personnes, ont rejoint la Guadeloupe et la Martinique. D'autres sont attendus demain. Les 100 tonnes d'oxygène envoyées par Paris sont arrivées également. Et une dizaine de malades vont être évacués en métropole. Rappelons le taux d'incidence aux Antilles, 2148 en Guadeloupe, 1153 en Martinique, alors qu'il est de 244 dans l'Hexagone. Quant à la vaccination, elle est de seulement 20% de la population antillaise. 20% de cette population a un schéma vaccinal complet contre 55% en métropole, et pourtant la technologie de l'ARN messager, qui inquiète encore certains, est une révolution porteuse d'espoir pour beaucoup d'autres maladies. Étudiée depuis au moins 20 ans, elle est utilisée, cette technique, dans certains vaccins contre le Covid, on le sait maintenant. Et le laboratoire Moderna lance aujourd'hui ses essais cliniques sur des humains pour un vaccin à ARN messager contre le sida. Tous les vaccins contre le HIV ont échoué à ce jour. Alors l'ARN messager contre le sida, c'est une technique très très prometteuse. Hélène Chevalier.
Réalisé auprès d'une cinquantaine de volontaires, ce premier essai servira à s'assurer que le vaccin n'est pas nuisible et qu'il déclenche bien une réaction immunitaire. Le professeur Jean-Michel Molina est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis.
Il est vrai que ces dernières années, on s'est rendu compte que certains anticorps, qu'on appelle les anticorps neutralisants, pourraient avoir un effet préventif contre l'infection par le VIH. Le problème, c'est que ces anticorps neutralisants vis-à-vis du VIH sont extrêmement difficiles à stimuler, avec une complexité supplémentaire, c'est que on sait qu'il y a une variabilité du virus énorme, bien plus variable que ne l'est le Covid.
Les chercheurs ont, lors d'un récent essai clinique plutôt concluant, déterminé quelles étaient les meilleures protéines pour fabriquer ces anticorps. Injecter leur code génétique par l'ARN messager pourrait être beaucoup plus efficace, espère le professeur Jean-Daniel Lelièvre, spécialiste de la vaccination.
La problématique que l'on a, c'est que cette protéine peut être difficile à produire ex vivo en grande quantité, parce que la protéine est assez complexe. Utiliser la technologie de l'ARN messager permet de faire produire beaucoup plus facilement cette protéine à l'intérieur de l'organisme. Et ça va être d'autant plus intéressant qu'elle va avoir une structure, une forme particulière qui est celle qui va induire une bonne réponse immunitaire.
Les résultats de cette première phase sont attendus dans 18 mois. S'ils sont concluants, il faudra ensuite tester l'efficacité du vaccin sur une cohorte plus importante, ce qui devrait prendre encore plusieurs années.
Hélène Chevalier, rappelons qu'en 2020, 1,5 million de personnes ont été contaminées par le VIH dans le monde, 6 000 en France. En finir avec la drogue à Marseille. Marseille, ville qui compte le plus grand nombre de points de vente de rue par habitant. Plus de 140 au total et certains dealers gagnent 80 à 100 000 euros par jour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était hier dans la ville pour annoncer la création de deux compagnies de CRS spécialement dédiées aux points de deal, de commerce. Habitants et élus de tous bords se disent satisfaits, mais cette stratégie peut-elle réellement réussir? Pas sûr. C'est le reportage d'Emmanuel Leclerc à Marseille.
Michel, la soixantaine, habite dans le quartier près de la gare Saint-Charles, dans le centre de Marseille. Un gendre commissaire dans la ville. Il affirme d'abord qu'il se fiche un peu d'une énième annonce sur la lutte anti-drogue, sauf pour celle des CRS, désormais permanents à Marseille.
Il serait temps.
Car Michel n'a pas vraiment l'impression de voir plus d'opérations anti-drogue qu'avant. Par contre, le nombre de petits revendeurs, là...
Là, dans les rues, il y en a partout.
L'élu municipal socialiste Nassera Ben Marnia habite à deux pas de là. Elle voit également d'un très bon œil ces deux compagnies CRS permanentes pour Marseille.
Alors moi, je vous répondrai déjà en tant que citoyenne et mère de famille que plus de sécurité, tout le monde est demandeur. Mais ça voudrait aussi dire que du coup, si on veut détruire les 140 points de deal et arrêter la consommation, comment on propose autre chose? Certains secteurs qui ne vivent que de ça. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer à ces jeunes pour que ça soit autre chose comme perspective que d'être charbonneur pendant 10 heures d'affilée, avec la perspective de griller, de se prendre une balle?
Nassera Ben Marnia estime que cette stratégie de Gérald Darmanin reposera inéluctablement, en fait, le débat sur la légalisation du cannabis pour récupérer dans un circuit légal au moins une partie des milliers de charbonneurs, ces vendeurs de drogue, petites mains des trafiquants dans la cité phocéenne. Marseille, Emmanuel Leclerc, France Inter.
Elle avait 18 ans, un nouveau féminicide hier à Morlaix. La jeune femme a été retrouvée morte dans l'appartement qu'elle occupait avec son compagnon, donc à Morlaix dans le Finistère. L'homme qui avait disparu s'est finalement présenté au commissariat hier après-midi. Il a tout avoué et il est toujours en garde à vue.
En Afghanistan, l'évacuation de Français et d'Afghans se poursuit.
Un nouvel avion en provenance de Kaboul s'est posé hier soir à Roissy. À son bord, 216 personnes exfiltrées d'Afghanistan après la prise de pouvoir par les talibans. Et parmi elles, 184 Afghans en besoin de protection, selon les autorités françaises. Des hommes et des femmes accueillis dans la zone aéroportuaire avant d'entamer le long parcours du combattant, du demandeur d'asile, Faustine Kalmel.
Ils sont personnels médicaux, militants, juges, issus des couches supérieures de la société afghane, précise un intervenant. À leur atterrissage, installés dans des hôtels de la zone aéroportuaire de Roissy, ils doivent respecter un isolement, quarantaine de 10 jours pour cause de Covid, l'Afghanistan faisant partie des pays sur liste rouge. C'est seulement après ce délai sanitaire que pourra débuter l'examen de leur situation, démarches administratives appuyées par France Terre d'Asile et l'Office français de l'immigration. Une fois leurs dossiers et leurs identités enregistrées, ces Afghans seront orientés vers les centres pour demandeurs d'asile. La plus grosse difficulté, estime un spécialiste, ce sera la langue. Très peu parle français. Il faudra donc apprendre avant de pouvoir espérer trouver un emploi et surtout un logement. C'est aujourd'hui le principal frein à l'intégration à long terme des demandeurs d'asile qui passent en moyenne 550 jours, un an et demi dans les centres d'hébergement.
Faustine Kalmel.
La rentrée se rapproche, la présidentielle aussi.
Et l'heure est aux cartes postales puisque nous sommes en été. Il y a tout juste 5 ans, souvenez-vous, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte posaient en une de Paris Match, main dans la main sur une plage de Biarritz. Première étape de l'opération, de leur opération séduction. Et bien aujourd'hui en kiosque, Xavier et Vanessa Bertrand sont en vacances en Corse. On connaît par cœur la formule Maxence Lambrecq, mais le patron des Hauts-de-France l'a jugé sans doute incontournable.
Tout y est, les photos d'enfance avec la coupe au bol des années 70, l'album de famille, les prénoms de ses quatre enfants, de ses deux ex-femmes et la séance photo en bord de mer sur les rochers de l'île Rousse. Lui face à l'objectif, basket, jean, chemise blanche entrouverte, elle de profil, blonde, les deux mains sur son épaule, Xavier et Vanessa Bertrand, l'ascension à deux, titre l'hebdomadaire. Mais je me garde bien de lui donner des conseils, confie la jeune femme de 34 ans. Il en reçoit assez comme ça. Les Français avaient découvert de la même manière Brigitte Macron, il y a tout juste 5 ans. Elle avait osé le maillot de bain sur la plage de Biarritz aux côtés de son mari. Leur photo avait fait la une. Ce devait être aussi le cas, glisse l'entourage de Xavier Bertrand. Mais la crise en Afghanistan est passée par là. Vieille ficelle de communication, persifle un élu LR. Passage incontournable, répond son équipe. Il faut se dévoiler pour toucher les Français. Xavier n'ira pas plus loin, il préservera toujours ses enfants, mais on ne pouvait pas laisser dans l'ombre la future première dame. C'est dit en souriant, mais il semble y croire.
Maxence Lambrecq.
La rentrée littéraire avec un premier roman déjà très remarqué, Grande Couronne de Salomé Kinner.
Une ville de banlieue à la fin des années 90, une adolescente qui regarde passer les trains qui filent vers la capitale pendant que sa famille se décompose. Mais comment faire quand on n'a pas assez d'argent de poche et que la vie dont on rêvait se révèle être un champ de cactus? Cette adolescente devra tout découvrir de la vie, y compris sa sexualité. Une héroïne attachante, une écriture percutante, un regard féroce et un humour décapant. Ilana Mor-Youssef.
Elle est de la génération des cartes Kofinoga et de la publicité triomphante. L'héroïne de Salomé Kinner rêve d'amour, d'ailleurs et de chaussures de marque. Dans son collège de grande banlieue, elle envie les filles qui ont la bonne dégaine. Pour leur ressembler, elle n'hésite pas à flirter avec le danger.
Je me suis rendu compte que c'était un âge où on était confronté à des réalités d'adultes, comme par exemple les premières expériences sexuelles, professionnelles parfois aussi, le rapport à nos parents qu'on arrête un petit peu d'idéaliser. Et en même temps, on a des ressources d'enfants. Pour le rendre par l'écriture, c'était très important que ça passe par le ton et le flux de pensée de cette narratrice qui n'a pas beaucoup de liberté et sa seule liberté, c'est son humour.
Le divorce de ses parents, la dépression de sa mère, son dépucelage, ses drôles de fréquentation, ses copines, tout prend vie et relief grâce à sa verve et à son regard acéré. Dans chaque scène, elle saisit le détail qui permet d'échapper au sordide ou à la banalité.
La seule manière d'être libre pour cette jeune femme, c'était sa langue. C'était le seul espace de liberté que pouvait avoir la narratrice, puisqu'elle ne l'a ni matériellement, ni affectivement. Sa vision et son langage, c'était sa manière d'exprimer sa force et son indépendance.
Avec Grande Couronne, Salomé Kinner fait souffler un vent vivifiant sur la rentrée.
Grande Couronne, donc, de Salomé Kinner chez Christian Bourgois, éditeur. Un livre qui sort aujourd'hui et qui figure déjà dans les sélections du prix Fnac, du prix Stanislas et du prix envoyé par la Poste.
Incontournable aussi de cette rentrée littéraire. Enfant de salaud, sort Chalandon au micro Inter à 7h45. C'était le journal de Laurence Thomas. Le Zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on vous fait faire le tour du monde. Ce matin, on prend des nouvelles du chantier de Nord Stream 2, le gazoduc entre l'Allemagne et la Russie.